Flash et après, nous sommes ce soir en direct et en public au Salon du Livre. Merci à vous d'être venus et merci à vous autres pour votre écoute. Que le public du Salon du Livre, dont nous sommes tous ici, ne se sente pas visé. Un des spectacles où se rencontre le plus d'épouvantement est certes l'aspect général de la population parisienne. Peuple horrible à voir, hâve, jaune, tanné. Paris n'est-il pas un vaste champ, incessamment remué par une tempête d'intérêts sous lesquels tourbillonne une moisson d'hommes que la mort fauche plus souvent qu'ailleurs et qui renaissent toujours aussi serrés, dont les visages contournés, tordus, rendent par tous les pores l'esprit, les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs cerveaux. Balzac, La fille aux yeux d'or, 1835. Ou comment, en quelques lignes suivies d'une dizaine de pages, Balzac réussit une géniale fresque sociale du 19e siècle, décrite à la fois les ressorts de l'émergence du capitalisme, la morale bourgeoise et les hommes de la société moderne. Marx lui-même, paraît-il, disait que quiconque avait lu la Comédie humaine n'avait pas besoin de lire le Capital. Et les romanciers du 21e siècle alors, sont-ils en mesure d'en faire autant? Sont-ils de bons observateurs de notre époque? Certains revendiquent de ne pas l'être, préférant se concentrer sur une œuvre. D'autres ont dans leurs écrits une approche presque sociologique. Dans un essai paru l'année dernière, « Rouvrir le roman », l'écrivain Sophie d'Ivry suggérait par exemple que les romanciers peuvent se permettre de faire des choix moraux que des journalistes ne sont pas censés faire. « Tout est, disait-elle à la grande table, dans l'émotion artistique proposée au lecteur. »
Le roman étant une forme très hybride, très ouverte, très élastique, comme dirait Henry James, il peut beaucoup plus que ce qu'on lui demande. Mais disons qu'il permet beaucoup plus, oui, que les petites historiettes qu'on lui demande. Il permet de prendre le monde et à travers des péripéties, ou, si on veut, ou des styles, des incarnations personnagiques, une tension narrative, une tension émotionnelle, il permet d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ce monde, comment on vit avec.
France Culture, dimanche et après, Julie Gacon.
En direct au Salon du Livre Paris avec nos invités, trois écrivains, trois romanciers, avec vos mots, vos styles, vos approches et vos centres d'intérêt. Bonsoir Joyce Sormand.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous depuis votre premier roman Boys, 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 paru en 2005 chez Gallimard, jusqu'à votre dernier livre Science de la vie. Aux éditions du Seuil, vous avez publié au total 13 livres, c'est ça, j'ai bien compté?
Moi-même, je n'ai pas compté, donc je vous fais confiance.
Bon, c'est 13, ça porte chance, dont certains d'ailleurs sont des manifestes ou des textes à valeur presque sociologique. On en parlera, vous êtes ici avec Vincent Ravalec, bonsoir.
Bonsoir.
Romancier, scénariste, cinéaste. Parmi vos romans, je cite votre Cantique de la racaille, 1994, Les tribulations d'une petite frappe parisienne pris dans les combines de recel à deux balles, des allers-retours en Picardie ou dans le Pas-de-Calais et des soirées glauques dans des bars. Et puis votre dernier, Sainte-Croix-les-Vaches. On n'est plus dans un décor urbain, mais en pleine Causse, dans un village isolé avec des personnages et des valeurs que ne comprennent pas les gens de la ville. Notre troisième invité est Aurélien Bélanger. Bonsoir.
Bonsoir.
La théorie de l'information en 2012, Le Grand Paris l'année dernière. Tous les matins de la semaine sur notre antenne à 8h45, vous nous donnez votre vision du monde sur des thèmes que vous avez choisis. Dernièrement, par exemple
Le RER demain.
La Russie, le nucléaire, le Mont Blanc aussi. C'est demain le RER?
C'est demain.
Ok, à 8h45. Alors hier, à cette même table au Salon du Livre, dans l'émission Avis Critique de Raphaël Bourgois, Jean Birnbaum, rédacteur en chef au Monde des Livres, disait « Il n'y a pas d'un côté le texte et de l'autre la vie. Les romans ne sont pas coupés de la vie. Est-ce que vous vous sentez les uns et les autres écrivains du réel? Est-ce que c'est une définition qui peut vous convenir ?» Qui veut répondre, Joyce Sormand?
C'est compliqué parce que ce mot de réel, on ne sait pas très bien dans quel sens le prendre, on ne sait pas très bien comment le manier, on peut y voir beaucoup de choses. Alors, évidemment que tout écrivain est un écrivain du réel, même un auteur de science-fiction ou un auteur qui écrirait des romans chevaleresques qui se passeraient au Moyen-Âge serait dans le réel. La question, c'est sans doute peut-être plutôt celle du contemporain. En réalité, j'avais le sentiment, en tout cas, que dans votre introduction, vous alliez plutôt vers ce thème-là, celle du contemporain, celle des questions politique, esthétique, économique, sociologique, que sais-je, qui traverse le contemporain. Donc, est-ce que nous sommes des auteurs du contemporain? Je pense que, moi, je vais pas répondre à la place de mes camarades, mais il me semble que c'est pour ça que vous nous avez invités. Donc, et en même temps, parce que effectivement, nos livres sont en prise avec avec notre temps, et nous sommes des auteurs de notre temps, c'est-à-dire qu'ils nous intéressons au paysage et aux questions de notre temps, mais comme je disais que tout écrivain est un écrivain du réel, je pense que tout écrivain est aussi un écrivain du contemporain, parce que nous sommes plongés corps et âme dans nos temps respectifs. Nous ne sommes pas que des écrivains, nous sommes des êtres avec des existences liées au XXIe siècle dans lequel nous vivons, et je vois pas très bien comment on pourrait créer une étanchéité entre nos œuvres et nos existences de chair et d'esprit et de psychologie.
Alors, quelles sont vos manières à tous de vous coller au réel, Olivier Ravalek? Quels sont vos territoires? Où est-ce que vous vous baladez? Comment vous flânez?
Écoutez, moi, en ce qui me concerne, j'ai l'impression d'être vraiment imbibé, imbibé du réel, en fait, et que c'est ça qui... j'ai beaucoup de mal à imaginer, en fait, d'écrire sans avoir cette proximité, sans avoir un regard qui est un regard, en fait, interactif permanent avec la réalité qui m'entoure, dans laquelle je baigne. Et par contre, je pense que c'est important, mais je pense qu'on en parlera aussi peut-être tout à l'heure, de préciser que en fait, on pourrait pas avoir de réalité si la littérature n'existait pas. Toute la réalité qui nous entoure aujourd'hui, on est des êtres de fiction. Je veux dire, ce qui nous caractérise, c'est que il me semble que ce qui caractérise notre espèce, l'espèce humaine, c'est d'avoir un cerveau qui est capable de déduction. Il y a quelques espèces qui en sont capables, mais c'est vraiment, a priori, dans ce qu'on en connaît, l'humain qui a cette capacité la plus profonde. Or, qui dit déduction, dit question qui se pose, et c'est ça, je veux dire, les fictions qu'on a réussi à créer, les mythes, les religions, et, je veux dire, les romans qu'on fait aujourd'hui, qui permettent qu'il y ait une réalité, tout ce qu'on a façonné aujourd'hui, c'est des choses qu'on a imaginées, et on les a imaginées parce que la littérature nous a accompagnés, les fictions, les histoires nous ont accompagnés tout au cours de l'histoire. Donc, je pense que c'est important pour moi de mettre ça en préambule dans la petite réflexion qu'on développe aujourd'hui.
Aurélien Bélanger, vous dites que le roman peut être en soi une vraie anthropologie des modernes.
J'essaie, les bonjours. Ouais. Non, j'étais content d'écouter au début Sophie Divry, parce que j'avais acheté son livre et je me suis retrouvé dans une vieille maison de famille sans Wi-Fi, et j'ai lu son livre. Et c'était une expérience très belle parce que je n'avais pas lu de bouquin théorique sur le roman depuis longtemps, et je reprenais comme ça, étant devenu romancier moi-même, plaisir à redécouvrir les gammes de mon instrument, quoi, l'étendue de la gamme. Et c'était dans une vieille maison de famille où je passais mes vacances quand j'étais enfant, et j'essaie toujours de retrouver cette expérience du monde. En fait, qu'on ait 3 ans, qu'on s'éveille au monde et qu'on ne comprenne rien à cette énorme chose, ou qu'on soit... ou qu'on ait 40 ans et qu'on soit extrêmement intelligent, on est toujours une sorte d'infime amibe d'incompréhension, et l'expérience esthétique doit être la même. Donc moi, j'essaie de mettre énormément de choses dans mes romans, de faire quelque chose de très adulte, de très construit, avec une croyance très forte dans le sérieux du monde, mais tout ça est au service d'une expérience enfantine. Je suis obligé de mettre tous ces matériaux pour arriver à l'état d'incompréhension qui me rappelle le moment où, à 3 ans, je ne savais rien à rien, et c'était bizarrement très beau, parce que ça touche à cette expérience anthropologique, je sais pas, mais d'être conscient. Être conscient, c'est sentir qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais le sentir.
Mais vous, Aurélien Bélanger, votre usage quasi compulsif de Wikipédia, par exemple, est souvent cité dans l'exégèse de vos romans. Est-ce que l'écrivain se doit de tout savoir sur tout, et donc d'être constamment en train de parfaire la connaissance qu'il a de son sujet au fur et à mesure qu'il écrit? Est-ce que c'est ça aussi, se coller au réel?
En fait, c'est plutôt vérifier à quel point on est bête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, essayer de tout savoir, enfin, je pense, pour moi, c'est un prérequis. C'est, il faut tout connaître de tout, ou connaître son niveau d'ignorance dans tout, mais c'est à peu près impossible de ne... Enfin, en même temps, je dis ça, le nombre de sujets auxquels je ne m'intéresse pas et qu'on pourrait montrer est très élevé, mais j'essaie de m'intéresser à tout, de comprendre tout, et en imaginant qu'en fait, ce qui est important, c'est mon niveau d'incompréhension, mon niveau de bêtise, une sorte de questionnement. Plus je fais un peu le malin dans mes romans, plus en fait, mon sujet devient un sujet complètement flaubertien, de la pauvre bêtise de l'humanité qui croit édifier des choses.
Ouais. Bon, vous vérifiez dans Wikipédia, vous, Joyce Ormond, votre territoire à vous, c'est la rue. Comment vous vous en imprégnez? C'est le ici et le maintenant qui vous intéresse, mais comment vous le saisissez, cet ici et maintenant?
Alors, il se trouve que moi, j'utilise aussi beaucoup, beaucoup Internet, parce que c'est vrai que vous avez cité tout à l'heure Balzac en introduction, et l'entreprise encyclopédique de Balzac, et qui témoigne que le roman est aussi, peut-être avant toute chose, un outil de connaissance. D'abord pour celui qui écrit, hein, je pense qu'en écrivant, c'est ce que disait finalement Aurélien Bélanger, nous formons des connaissances d'abord pour nous-mêmes à partir de notre propre bêtise, nous pouvons en donner au lecteur. Donc il y a cette édification d'une connaissance proprement littéraire qui, pour ma part, peut passer par Internet aussi et qui passe beaucoup par le terrain, comme on dit faire un terrain en anthropologie ou en sociologie, en approche documentaire pour un certain nombre de mes ouvrages. Mais ça, je pense que c'est lié à une érotique de l'écriture personnelle. Il se trouve que moi, ce qui m'intéresse, me fait plaisir, me porte, là où est mon désir, hein, au sens le plus primaire, c'est justement dans cet acte de sortir de chez soi, d'investir des terrains, de passer littéralement du temps dehors, à l'extérieur, à la rencontre d'autres vies que la mienne, pour reprendre le titre de Carrère, d'autres corps que le mien, et donc de faire du reportage littéraire ou du documentaire littéraire. Mais je ne considère pas que ce soit un outil de connaissance supérieur à Wikipédia et au fait de rester chez soi au chaud, par exemple. C'est où on a notre libido littéraire, et moi, elle se trouve souvent à cet endroit-là.
Bon, Balzac, en tout cas, a l'air de vous inspirer tous les trois. Vincent Ravalec, Balzac, la figure tutélaire de celui qui commande son époque, pourquoi la commande-t-il, et est-ce qu'aujourd'hui, les écrivains sont capables d'en faire autant? Est-ce que leur statut, par exemple, d'écrivain, leur permet d'avoir aujourd'hui une vision aussi fine de la société française?
Bah, je pense que leur statut a forcément changé, puisqu'aujourd'hui, il y a tout de même des moyens d'expression qui sont beaucoup plus larges qu'au moment de Balzac. Par contre, je crois qu'il y a énormément de livres qui s'écrivent, énormément de bons livres, et que justement, la multiplicité des regards littéraires est très précieuse. Parce que la littérature va décrire le réel, on va évidemment, normalement, un bon écrivain, pour rebondir sur ce que disait Joyce, c'est évidemment quelqu'un qui va témoigner d'une vraie réalité, c'est-à-dire qu'il ne va pas inventer des choses qui sont erronées, sur lesquelles il ne se sera pas bien documenté, mais par contre, il va le transformer avec son regard. Et je pense que c'est ça aussi qui est précieux dans la littérature, c'est cet aller-retour constant qu'il y a entre la réalité et la manière dont on va la sculpter avec notre livre, avec notre imagination, notre style.
Mais toutes les grandes figures de la littérature d'aujourd'hui ne passent pas leur temps nécessairement à raconter le monde d'aujourd'hui. C'est pas nécessairement un objectif pour tout le monde. Est-ce qu'un livre peut avoir échoué à décrire une réalité, mais être néanmoins un sublime texte littéraire?
Oui, alors d'une part, je pense que c'est évidemment, ils peuvent être un sublime texte littéraire, mais même s'ils ne parlent pas de la réalité factuellement, apparemment, il est tout de même imbibé du monde, il est tout de même intriqué avec le monde. Même un roman historique, même un roman de SF, forcément, par effet rebond, parle, décrit, se souvient d'une histoire ou projette une histoire dans le futur. Et de toute façon, il est. Moi, je pense que là, évidemment, étant romancier, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que la littérature n'est pas un divertissement, n'est pas un gadget. C'est quelque chose qui est au cœur même de ce qu'on est, de substantiellement, intrinsèquement, qui garantit notre être, notre devenir, et qui garantit aussi notre mémoire.
Aurélien Bélanger, Michel Houellebecq se définit sans cesse comme post-balzacien. Vous êtes post-houellebecquien, donc vous êtes post-post-balzacien, si on suit la logique. Houellebecq, qui dans Soumission écrivait « Un auteur, c'est avant tout un être humain présent dans ses livres, qu'il écrive très bien ou très mal, en définitive, ça importe peu, l'essentiel est qu'il décrive. » On peut être mauvais écrivain, mais bon sociologue, ça reste de la littérature.
Ce qui est ambigu dans ce que dit Houellebecq là, c'est la question de l'intime et de l'individualisation. En fait, est-ce que plus on trouve sa veine personnelle, plus on s'individualise? Moi, j'aurais tendance à penser l'inverse. Plus on trouve sa veine personnelle, plus on devient précis, plus on maîtrise les outils de la grammaire et de la connaissance, plus, au contraire, on se connecte très finement à une sorte de chose, je ne sais pas si elle existe, une sorte d'esprit commun. Et le rôle des personnages sert à ça. Le rôle des personnages, je pense pas que ce soit pour faire exister des marionnettes vivantes ou de simuler la vie. Je pense que les personnages, c'est une sorte de prisme de mise à distance de ses propres connaissances et de remettre des connaissances qu'on pourrait avoir en situation autrement, en imaginant toujours que cette espèce de configuration mentale de son personnage, on pourrait l'avoir soi-même. Et ce qui est génial dans le roman, c'est de creuser cet endroit où on touche vraiment à quelque chose d'extrêmement commun.
Eh ben, prenons vos personnages pour exemple. Dans Le Grand Paris, par exemple, chacun d'entre eux renvoie à un personnage réel. Le prince, c'est Nicolas Sarkozy. Eugène Belgrand a bien existé. Il a contribué à rénover Paris dans la seconde moitié du 19e siècle, etc. Vous avez passé des heures et des heures à vous documenter sur ces personnages. Qu'est-ce qui fait littérature ensuite dans votre mise en texte de tout ça? Comment vous vous distinguez d'une démarche journalistique, par exemple, dans l'écriture?
Parce que je voulais, sur un truc vraiment très très simple, c'est que je voulais raconter la fin du père Goriot, donc la naissance du personnage génial de Rastignac. Il est à l'enterrement du père Goriot et il regarde Paris et il dit « À nous Paris ». Et tous les romans à la suite du père Goriot vont raconter l'histoire d'un provincial qui monte à Paris, etc. Ça va devenir une sorte de grand canon de la littérature française. Moi, j'ai voulu raconter une petite variation de ça, c'est qu'il monte effectivement sur la butte du père Lachaise, sauf qu'il regarde de l'autre côté de cette grande butte témoin qui domine la Marne, il regarde du côté de Clichy-Montfermeil, il regarde de la banlieue française, et il fait un parcours sociologique pas impossible, mais assez rare. Je voulais raconter l'histoire de quelqu'un qui va passer de l'ouest à l'est et qui naît dans les Hauts-de-Seine, a envie volontairement d'aller vivre en Seine-Saint-Denis, et pas spécialement dans une Seine-Saint-Denis gentrifiée, dans une Seine-Saint-Denis difficile. Ça faisait que c'était un peu inexplicable dans une trame sociologique normale, donc j'avais besoin de 500 pages pour expliquer pourquoi il allait faire ce geste-là.
Vincent Ravalec, je vous pose la même question. Comment on se démarque du journalisme dans l'écriture? Est-ce que c'est par exemple en passant par le registre des sensations, d'écrire des sensations, d'écrire des émotions ou des sensations au toucher, être précis? Est-ce que c'est ça, être romancier?
Alors, il y a pour moi une différence, mais qui est fondamentale, parce que j'ai souvent écrit pour des journaux. Et à chaque fois que j'ai écrit pour des journaux, j'ai tout de suite précisé que j'étais pas journaliste et que la manière dont j'écris, c'est que tout simplement, alors pour ma part, je fais intervenir dans la réalité quelque chose qui est vraiment du domaine de la fiction et qui n'existe pas dans la réalité, tout simplement. C'est-à-dire que je vais juxtaposer à la réalité des éléments, soit par nécessité romanesque, mais aussi peut-être par plaisir personnel, parce que j'ai envie qu'ils soient là, qu'ils n'existent pas dans la réalité. Et pour moi, l'écriture, c'est vraiment, je rentre dans un monde magique, et ce monde magique, le jour où j'ai commencé à écrire, pour moi, c'est la réalité a changé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très important qui s'est passé dans mon rapport au réel, c'est que d'un seul coup, ce réel est devenu quelque chose de malléable et que j'ai pu en faire exactement que c'est devenu une réalité qui du coup me convient beaucoup plus, parce que d'une part, j'ai une prise sur elle, et en plus, je peux la modeler, la sculpter à ma façon constamment. Et c'est très agréable. Donc, je pense que au risque de me répéter, je pense que la littérature est quelque chose de fondamental et qui devrait vraiment être. Je pense que si tout le monde devenait écrivain, je veux dire, ça irait encore mieux, quoi.
Ah ouais?
En gros, oui, je pense vraiment, oui.
J'ai sûrement tout le monde pourrait être écrivain, ça irait mieux.
Je sais pas ce qui irait mieux, mais je pense que si tout le monde désirait être écrivain, tout le monde pourrait écrire des livres, ça c'est certain.
Alors, comment on se démarque aussi de la démarche sociologique que vous pouvez avoir, Joyce Ormond, par exemple, quand vous rendez compte de vos rencontres avec ceux qui vivent dans des immeubles inhabitables de Paris? À quelle distance on observe? Parce qu'il peut y avoir en littérature une fascination pour l'esthétique de la laideur, par exemple. Et c'est pas votre propos. Vous êtes presque dans une démarche beaucoup, plus sociologique, quoi.
Oui, alors. Pour moi, la démarche sociologique, elle est presque accessoire. C'est-à-dire que il se trouve que écrivant un texte sur la situation des taudis parisiens, je m'inscris dans un débat sociologique sur le relogement, la crise économique, les migrations, etc. Mais finalement, c'est pas mon point de vue de départ. Pour revenir à cette distinction entre le journalisme et la littérature ou la sociologie et la littérature, on peut tirer plein de fils. Il y a d'abord l'expérience de la durée. Pour moi, la littérature, l'écriture, c'est une expérience de la durée. C'est une expérience du temps qu'on prend pour regarder, pour penser, pour écrire. Alors que le journalisme, c'est évidemment l'instantané, la fulgurance. Donc cette expérience de la durée, elle nous conduit à penser autrement. Elle nous conduit aussi vers quelque chose qui que je vais appeler très vite la beauté, qui a quand même aussi à voir avec la littérature, c'est-à-dire comment on sculpte des phrases, comment on fait sonner des phrases, parce que c'est quelque chose qui intéresse les écrivains, c'est-à-dire comment on produit des espèces d'expériences synesthésiques où on fait naître des images, des sons, on réveille des parts de l'imagination du lecteur qui sont pas du tout le propos de la sociologie ou du journalisme. Et puis il y a cette expérience aussi de la présence de l'auteur, c'est-à-dire que moi dans mes reportages littéraires je m'inclus dans le champ. Et alors pas seulement comme une subjectivité, parce que le journaliste aussi ou le sociologue a sa subjectivité, même s'il fait semblant de la mettre de côté, mais dans le sens où il s'agit confronter la sensibilité et les corps de ceux que je rencontre à ma propre sensibilité, mon propre corps. Et donc il y a toujours une part finalement autobiographique ou auto-fictionnelle parce que je me mets en scène comme un être littéraire. Et pour revenir aussi sur ce que disait Vincent Ravalec sur la fiction, c'est que je m'autorise également des petites dérives fictionnelles qui sont invisibles dans mes livres, c'est-à-dire que j'invente des choses qui paraissent réelles parce qu'elles sont prises dans ce reportage comme ça, du ici et maintenant, et je les invente non pas pour tromper le lecteur, mais parce qu'à un moment, je veux faire voir une situation, je veux faire sentir l'humidité dans une pièce, je veux faire sentir la détresse d'un personnage, je veux faire sentir la bêtise d'une politique publique, et je me dis, ben là, j'ai besoin d'exagérer, j'ai besoin de rajouter un personnage, j'ai besoin de rajouter une phrase que je vais inventer dans la bouche de quelqu'un que j'ai rencontré. Et je n'ai pas honte de le faire, car c'est pour la bonne cause de la littérature étant celle de la sensibilité, de la beauté, de la connaissance, d'une certaine vérité des situations. Voilà, donc c'est en ce sens-là où la malhonnêteté de l'écrivain est utile.
Donc c'est aussi, malhonnêteté dites-vous, mais c'est aussi de la transposition peut-être, Aurélien Bélanger, faire sortir de l'être autre chose que ce que l'on voit, disait Céline, pour parler de la littérature.
Transposer. Moi, comme j'utilise beaucoup de personnages et d'événements réels, je suis obligé de transposer.
Oui. Donc, si tout a inventé, qu'est-ce que la littérature, si tout a déjà existé, qu'est-ce que la littérature invente dans vos livres?
Moi, je me pose plutôt la question de ce que fait Balzac, c'est qu'il cite jamais, les cadres politiques de son temps, il cite jamais le roi. Donc, est-ce que on voit les raisons pour lesquelles il fait, mais est-ce que ça ne le fait pas qu'il décroche un petit peu de la réalité? C'est comme quand dans un roman, je ne me verrais pas inventer un président de la République, ce serait extrêmement dissonant, ça marcherait pas. J'ai pas la capacité littéraire de faire un coup façon le rivage des Sirtes où j'invente un pays entier, etc. Ce serait trop compliqué. Il y a pas de Tolkien en moi, je le sais. Donc je triche avec ces choses, pardon.
Est-ce que l'histoire personnelle de l'écrivain lui donne aussi un certain rapport au monde? Vincent Ravalec, vous êtes fils de prof, vous avez arrêté l'école à 14 ans, vous avez enchaîné les petits boulots. Ça se sent dans votre écriture, vous pensez?
Écoutez, là, oui, dans mes livres, c'est évident qu'il y a une grande partie de mes livres qui ont été des livres où j'ai pas eu besoin de faire des repérages, clairement, quoi. Donc, c'est quelque chose qui m'est resté. Pour moi, en fait, c'est très important d'avoir un contact direct. Là, par exemple, mon dernier livre, ça se passe dans le milieu rural. J'ai absolument aucune légitimité pour écrire sur le milieu rural.
Je précise juste que le cri qu'on entend, c'est un chant. Mais c'est un chant, continue.
Tout à l'heure, qui est assez agréable, d'ailleurs, assez curieux.
C'est un petit fond sonore.
Et donc, bref, j'ai écrivant sur des paysans, sujet que je ne connais absolument pas. Il a bien fallu que j'aille me plonger là-dedans, et si je l'avais pas fait, j'aurais pas pu écrire le livre.
Êtes allé, vous avez passé du temps.
Ouais, j'ai passé du temps, et puis bon, maintenant je suis souvent à la campagne aussi, ce qui explique ça. Mais je suis toujours très choqué, moi, quand je lis un livre ou quand je vois un film, parce que c'est pareil pour les. Comme je travaille aussi comme scénariste, ça m'arrive de travailler sur des films où, on parle d'un sujet qu'on ne connaît pas, et moi, c'est vraiment quelque chose qui me heurte beaucoup. Et pour les livres, pour moi, c'est une évidence qu'on doit. Ou alors on est effectivement, on est dans Julien Gracq, on est dans autre chose, même ça, enfin je veux dire, il y a une substance en fait qui trompe pas à mon avis dans un livre, et cette substance je pense que c'est la réalité.
Mais Céline encore, médecin, disait l'expérience n'est qu'une lanterne sourde qui n'éclaire que celui qui la porte. Joyce Armand, vous racontez volontiers que vous avez été élevée dans un grand appartement rempli de livres où des intellectuels venaient dîner et que vous êtes le produit de ça. Est-ce que vous pensez que ça a une influence dans la manière dont vous racontez, dans votre rapport au monde et la manière dont vous en faites l'écho?
Je suis pas sûr que je le raconte volontiers, hein, mais bon.
Pardon, alors vous l'avez dit dans certains entretiens.
Voilà, les journalistes le racontent volontiers.
C'était une interview où voilà, ouais, on posait la question.
Mais c'est un détail. Je trouve ça très intéressant, effectivement, de d'élucider le lieu d'où l'on parle, hein, pour avoir un lexique comme ça, un peu mai 68, d'où parles-tu, camarade. Donc, évidemment que d'être une femme quarantenaire, blanche, bourgeoise, d'un milieu intellectuel, ça n'est pas anodin dans... Alors, peut-être pas dans ma façon d'écrire. J'ai pas l'impression d'écrire à partir de ce lieu-là et d'être conditionnée par ça. En revanche, je reviens, excusez-moi, à ce lexique de la libido et du désir d'écriture. Je pense que mon désir, justement, de m'abstraire de ce monde-là, de penser contre moi, d'une certaine façon, d'aller voir des territoires qui me sont sociologiquement, culturellement étrangers, procède de ce territoire-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie d'écrire pour, justement, habiter le lieu d'où l'on vient, pour l'approfondir, pour mieux le connaître. On peut aussi avoir envie d'écrire pour s'en échapper, pour élargir le champ de son savoir et de sa sensibilité. Donc moi, j'ai plutôt... alors, je me prends pas non plus pour une révoltée qui dirait merde à son milieu bourgeois, ce serait ridicule. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que j'ai des amis écrivains qui me disent « Mais tu devrais écrire sur ton milieu d'origine, sur ton milieu bourgeois intello, parce que précisément, tu pourrais le documenter puisque tu viens de là. » Et ils attendent que j'écrive ce livre. Et moi, je dis « Mais précisément, je le connais trop bien et donc mon érotisme à nouveau ne peut pas jouer là. Il joue vers l'inconnu, il joue vers l'obscur, il joue vers le trouble. Donc c'est là où mon milieu joue et il joue évidemment chez tous les écrivains.
Dimanche et après. Julie Gacon.
On a besoin de pouvoir s'identifier à celui pour qui on va voter, de sentir que même de loin, il comprend ce qu'on ressent et de l'approuver. Là, monsieur, est-ce que vous comprenez que le fameux Front républicain est mis en danger? Et connaissant les risques importants que notre pays tombe aux mains du FN?
Alors, la réponse peut-être de François Fillon.
On ne comprend pas pourquoi vous ne vous êtes
Angot,
pas retiré.
On va le laisser répondre pour que vous puissiez réintervenir ensuite. Allez-y, François
Fillon. Madame, de quel droit vous me condamnez? De quel droit vous estimez que l'emploi de mon épouse était illégal et qu'il était indécent? De quel droit?
De quel droit?
Attendez,
je
vous
répondez.
Mais si, madame.
Je vous dis ce que je ressens.
C'est trop facile.
Je vous dis ce que je ressens. On est des millions
que vous ressentez
à ressentir
ça. Mais moi, je vous dis une chose. On est dans un pays de droit. C'est pas parce qu'un journal a décidé de m'accuser que je suis coupable, madame.
Écoutez.
Hein? C'est pas parce qu'un journal a décidé de m'accuser que je suis coupable, et moi je ne le suis pas.
Très bien.
Vous parliez
il vous
de votre
répond,
bracelet,
il vous,
vous parliez de votre bracelet, moi j'ai rendu les costumes. Voilà.
Alors, les applaudissements, on n'est pas dans une arène, s'il vous plaît.
L'écrivain est-il un bon observateur, un bon commentateur, un bon analyste de notre société? France Culture en direct au Salon du Livre, nous sommes toujours avec nos trois invités, Joyce Ormand, Aurélien Bélanger et Vincent Ravalec. On peut rappeler les circonstances de l'apparition de Christine Angot face à François Fillon dans l'émission politique lors de la dernière campagne présidentielle. On était à l'époque dans une sorte d'impasse politique et c'est elle, l'écrivain, qui est convoquée. C'est à elle qu'on demande de venir intervenir face à François Fillon dans une arène, comme le déplore David Pujadas tout en l'ayant provoqué. C'est intéressant là pour commencer à aborder cette question de la place de l'écrivain dans l'espace public, dans le débat public. Est-ce qu'un écrivain est là pour dire à la place de, pour porter une voix, comme le dit Christine Angot? Aurélien Bélanger.
Moi, ça me gêne un petit peu parce que j'ai tendance à penser que les spécialistes de la politique, c'est les politiques, enfin, c'est assez caricatural.
Qu'il fallait un spécialiste de la politique ou est-ce qu'un spécialiste
non,
des mots?
Non, non, c'est que je pense qu'en fait, là, il y a un problème de, discuter d'art avec des bourgeois, par exemple, c'est catastrophique. C'est catastrophique, ça met mal à l'aise, les critères esthétiques sont pas les bons, etc. Même si ça fait partie de la construction identitaire de l'artiste de se construire contre le bourgeois. Discuter, je pense que pour un politique, discuter de politique avec un écrivain, c'est à peu près aussi insupportable que discuter d'art avec un bourgeois quand on est artiste.
Donc
les registres se croisent pas, c'est pas bon. Ça marche pas bien. Ouais. Il faut y aller, bien sûr, mais il faut y aller autrement, pas par le commentaire frontal comme ça. Ouais.
C'est vrai que là, on est dans le cas d'un écrivain de l'autofiction, Christine Angot, à qui on donne la responsabilité de parler au nom d'eux, et elle le dit d'ailleurs, elle le revendique comme tel, Joyce Ormand.
Moi, ce que je trouve intéressant dans cette séquence télé, dans ce qu'a fait Angot, c'est pas tant qu'elle soit écrivain, c'est sa personnalité, parce qu'en fait, je pense que ça a rien à voir avec le fait qu'elle soit écrivain. Je pense que ça a à voir avec la psychologie et la personnalité, comme ça, assez éruptive et qui va, qui a pas peur de Angot. Je veux dire, elle pourrait être floriste, ça aurait pu donner la même chose. Alors après, ça n'est pas anodin qu'elle soit écrivain au regard de l'espèce d'image un peu mythique de l'écrivain tellement française. Hein, le Salon du Livre, là où nous sommes, en témoigne. Il y a une espèce d'aura en France qu'on pourrait discuter d'ailleurs autour de cette figure symbolique très forte. Donc il y a le tempérament de Angot qui croise cette aura symbolique. Mais après, je ne pense pas que son statut d'écrivain l'oblige particulièrement ou lui donne plus de pouvoir. Enfin, c'est toujours, bon, moi, contrairement à Aurélien Bélanger, je pense que c'est toujours bien que les non-spécialistes s'emparent de sujets de spécialistes, précisément pour faire varier le lexique, pour faire varier la langue, pour faire varier la syntaxe, et pour que dans l'espèce de discours majoritaire un peu ronronnant, tout d'un coup, il y a un ton comme ça qui fasse dresser l'oreille. Donc, c'est vraiment une question de langue, hein, pour revenir à la littérature.
Donc, l'écrivain doit participer au débat public pour manipuler les idées et les mots, Vincent Ravalec, c'est en ça qu'il est utile.
Écoutez, moi, je vais me situer au milieu, hein, c'est-à-dire que je suis parfaitement d'accord avec Aurélien. Pour moi, il y a un problème de compétence. C'est-à-dire que, clairement, moi, je ne suis pas compétent pour parler politique et je ne me sens absolument ni le droit et je ne vois vraiment pas ce que je vais dire d'intéressant. Par contre, je pense qu'en tant qu'écrivain, je peux amener par la bande, par mes livres, par des choses beaucoup plus diffuses et par la littérature justement, peut-être une autre manière d'avoir un regard sur les idées, un autre regard sur le monde, un autre regard sur une situation. Je vais pouvoir m'en moquer, réfléchir dessus, me projeter sur quelque chose. Et ça, c'est beaucoup plus mon truc. Après, je pense qu'effectivement, c'est une question de personnalité. Il y a des gens qui sont écrivains, qui s'estiment avoir une compétence sur le débat public et auquel aussi ce genre de rôle va convenir parce qu'il faut aussi être fait pour ça, quoi, et qui vont du fait de leur position d'écrivain amener quelque chose. Bon, l'exemple le plus célèbre, je pense que c'est Zola avec J'accuse qui a, enfin, je parle sous le contrôle de mes camarades. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça d'écrivains qui ont porté, de par leur notoriété d'écrivain, un débat, mais qui n'est pas un débat littéraire, dans lequel la littérature n'a pas à voir, en fait.
Vous, par exemple, Vincent Ravalec, quand Libé vous confie la semaine de l'actualité, ça donne, par exemple, ça.
Ah oui, je m'en souvenais plus.
Ben voilà. Ouais. Alors, c'était jeudi. Jeudi, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe, tenue jalousement secrète par S. Kirfin, l'auteur du livre qui sort aujourd'hui. Elle est pourtant étayée par un certain nombre de documents accablants. Oui, les nazis auraient bien intégralement financé la construction de la Tour Eiffel. Hitler en aurait même supervisé les plans. À Paris, l'émotion est à son comble. Un groupe d'intellectuels se fend immédiatement d'une pétition pour demander l'éventuelle démolition du monument. Prudent, je m'abrite derrière mon répondeur quand il me sollicite, on ne sait jamais. Vous vous abritez derrière l'absurde quand on vous demande de commenter l'actualité. Vous pensez que ce n'est pas votre rôle?
Non, c'est moi. Clairement, c'est pas mon truc. Je suis pas fait pour ça, quoi.
Vous, Joyce Sormand, quand vous avez sorti, alors il y a eu Boys, 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 mais aussi des livres un livre en 2010 avec François Bégodeau, L'invention de la jeunesse. On vous a beaucoup fait intervenir dans les médias pour parler des jeunes. Mais jusqu'à quand on est légitime pour parler des jeunes? Et est-ce que vous vous posez cette question de la légitimité sur tous les sujets sur lesquels on vous convoque, que ce soit le féminisme? D'ailleurs, je ne sais pas si on vous a appelé, par exemple, pour parler du phénomène MeToo. Et si vous, est-ce que vous posez cette question de la légitimité?
Oui, non, mais de toute façon, j'ai aucune légitimité. Enfin, déjà, nous, notre boulot, c'est quand même d'écrire des livres. Hein. C'est pas d'avoir des points de vue sur l'actualité ou d'aller effectivement commenter la vie politique française. On écrit des livres, donc c'est là que ça se passe pour nous. C'est là qu'on pense, c'est là qu'on existe. Voilà. Donc, effectivement, moi, j'ai pu être sollicité pour parler du féminisme, pour parler de la condition animale quand j'ai écrit sur les animaux, pour parler sur la jeunesse, etc. Bon, je suis totalement illégitime parce que je ne suis pas une spécialiste au sens où le disait Aurélien Bélanger tout à l'heure. Après, j'ai la légitimité du livre, c'est-à-dire d'avoir sérieusement pendant un an ou deux travaillé, réfléchi à une question. Mais travailler et réfléchir à cette question d'une manière littéraire, d'une manière poétique, d'une manière sensible, d'une manière minoritaire. Parce que finalement, c'est ça la littérature quand même au, au sens où Deleuze pouvait en parler, où le philosophe Gilles Deleuze pouvait en parler, c'est un art du minoritaire. C'est-à-dire que c'est frayer des discours, des voix, des idées qui prennent des chemins de traverse par rapport au grand discours majoritaire de notre temps, au grand discours de la politique, au grand discours de la communication, du marketing, au langage commun, aux idées communes, aux idées banales, aux idées qu'on avale comme ça, sans les interroger. Donc la littérature, elle vient semer le trouble et elle est cette petite, ce petit agacement minoritaire dans les grands discours d'aujourd'hui. Donc en ce sens-là, on est illégitime parce qu'on n'est pas les spécialistes des grandes questions et on est légitime parce que on peut venir aussi faire un pas de côté. Mais le problème, c'est que dans le temps médiatique, on est souvent assimilé à des spécialistes comme les autres et que la parole singulière de la littérature, elle n'est pas vraiment regardée comme telle.
Aurélien Bélanger, vous qui tous les jours sur France Culture proposez, donc à 8h45, on le redit, une chronique pour donner votre vision d'un sujet que vous avez choisi. Comment vous le réfléchissez, le pensez?
Bah, bizarrement, je suis beaucoup plus subjectif et je me mets beaucoup plus en scène à la radio. Dans mes romans, j'interviendrai jamais dans le cours du récit. Non, mais pour revenir plus généralement, j'ai l'impression que l'écriture romanesque, à titre personnel, c'est vraiment de l'ordre de la réaction immunitaire à la complexité. Quand c'est compliqué, quand je comprends pas, ça me blesse, ça me fait mal, j'aime pas, ça me rend dépressif, je reste dans mon lit et je suis pas bien. Écrire un roman, c'est une façon de repousser ça parce que c'est un outil de compréhension. J'ai travaillé récemment sur le moment un peu où la mondialisation devient un terme commun à la fin des années 90, au début des années 2000. J'ai pas fait des recherches très poussées, mais juste en essayant de réfléchir sur cette chose, etc., comme une pierre qui roulait dans un bol, comme ça, j'ai fini par trouver des choses et j'ai eu plein d'idées et j'ai compris ce moment historique. Alors, à titre personnel, hein, j'ai pas fait des travaux de compréhension historique de cette chose, mais j'ai eu l'impression d'utiliser plein de pistes qui m'ont rendu beaucoup plus heureux et beaucoup plus conscient de mon temps et de mon époque. Et l'écriture relève un peu de cette astuce, quoi.
Par exemple, ce qui vous a...
Ce sera dans mon prochain roman, mais je veux rien dévoiler, mais une sorte d'harmonie entre délocalisation industrielle et mondialisation financière. Quelque chose de beaucoup moins cruel et de voulu qu'on l'a vu, mais quelque chose de vraiment de l'ordre de « on va vous acheter des produits, mais vous nous racheterez de la dette, et comme ça on va fabriquer quelque chose de vertueux tous ensemble, etc. » Ce moment est éminemment critiquable, où je touche à un point d'idéal. Il m'est important pour mon travail de pouvoir me mettre dans la tête d'un banquier heureux de 1998. Et si j'arrive à rejoindre ce bonheur de banquier en 1998, je sais que j'aurai réussi.
Vincent Ravalec, on n'entend pas souvent les auteurs de Polar, par exemple, intervenir dans le débat public. Or, est-ce que ce ne sont pas eux qui connaissent mieux ou qui ont le mieux observé, se sont le plus imprégnés peut-être de la France plus en marge, aux États-Unis, par exemple, on l'entendait récemment dans une émission du Grain à Moudre, des auteurs expliquer en quoi tout un courant de la littérature américaine, identifié comme le rural noir et peu traduite en français, était sans doute un excellent témoignage et révélateur de l'Amérique de Trump, que la littérature américaine en général n'avait pas comprise ou pas vu venir. Et en France, on les entend pas, les auteurs de Polar.
On les entend peut-être pas d'un point de vue médiatique, mais on les entend à travers leurs livres, et c'est ça qui compte avant tout. Alors après, est-ce que les auteurs du polar sont plus en prise avec une réalité, disons, c'est peut-être que oui. Je vous avouerai que je botte un peu en tout.
Vous travaillez sur un polar, non? Vous avez travaillé sur...
J'ai un polar qui va sortir bientôt, effectivement. Mais c'est un polar, alors là, pour le coup, assez fantastique. Donc, c'est pas exactement... mais il y a eu toute une veine du polar, même en France. Le polar des années 80 a été vraiment quelque chose qui a... qui a accompagné toute la société de ce moment-là, qui a décrit des choses qui n'étaient pas décrites dans la littérature et qui a permis un éclairage sur toute une partie du réel qui n'était pas forcément mis en, comment dire, en valeur ou en perspective dans la littérature actuelle. C'est peut-être dû aussi au fait à la sensibilité, mais peut-être aussi à la condition des gens qui écrivaient du polar, parce que peut-être que quand on s'intéresse au polar, on est peut-être plus enclin, je sais pas, moi, à aller traîner dans les bars, à fréquenter des voyous, à connaître des flics et ainsi de suite. De ce fait, être plus en prise avec une partie du monde qui est plutôt inédite.
C'est ce que vous avez fait pour Cantique de la Racaille dans les années 90?
Non, alors là, franchement, Cantique de la Racaille, je connaissais déjà, en vrai. Quoi. Donc, j'ai pas eu besoin d'aller faire des repérages. Mais il y a d'autres, il y a pour d'autres livres, j'ai fait des repérages et j'ai rencontré. Effectivement, mon prochain livre se passe dans le milieu des sectes. Bon, il se trouve que justement, j'avais un contact qui était très proche de ça, et je me suis documenté. Et du coup, je vais parler de quelque chose que je vais décrire une partie de la réalité que je ne connaissais pas moi-même. Et c'est très important ce que disait Aurélien. Enfin, alors c'est vrai que ça ne concerne pas le lecteur, mais je reviens à ça. Pour moi, l'écriture, c'est une baguette magique. C'est une baguette magique déjà pour l'écrivain. Moi, l'écriture a permis de me transformer, de mieux comprendre le monde, et ça me permet ça tous les jours. Et j'espère qu'il y a ça qui se diffuse dans mes livres. Et en ça, je pense que je participe à l'espèce de grand concert mondial qui fait qu'on tisse le réel tous les jours, quoi.
Donc la littérature peut influencer sur la réalité, être prescriptrice de la réalité.
Pour moi, c'est de la pensée magique. On est des magiciens. Je veux dire, un bon écrivain, c'est, et puis on est dans de la pensée magique qui marche. Il y a rien. Ce que je disais au début de l'émission, il y a rien autour de nous qui n'existerait si on ne l'avait pas pensé, imaginé et écrit.
Donc il faudrait écrire que des livres optimistes, il faudrait écrire
justement, parce que la littérature n'a pas que cette fonction-là, à mon avis. Elle a aussi une fonction, déjà, de se réapproprier sa mémoire. On peut se consoler grâce à la littérature, on peut se projeter dans le futur. Je pense que le spectre de cette baguette magique est très, très large, et que tous les écrivains, en utilisent une ou... Ah, excusez-nous, un petit garçon a été perdu.
Un petit message, je ne sais pas si les auditeurs nous entendent... quand même, et si vous nous entendez toujours, je voulais vous soumettre cette réflexion de Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012 pour le sermon sur la chute de Rome, qui s'inquiète de cette tendance catastrophique aux fake news, à la post-vérité, et il dit à ce sujet, si le lien des mots à leur référence est coupé, toutes les manipulations sont possibles, plus rien ne veut rien dire. Aurélien Bélanger.
Je rebondis sur son sermon sur la chute de Rome. J'ai avec moi le livre que je suis en train de lire. Ça fait plus de 15 ans que je ne le lis pas, parce que c'est le livre sur la décadence de l'Empire romain de Gibbon. Et je ne le lis pas parce que je sais que c'est périmé d'un point de vue historique. Et je me dis, c'est idiot de lire Gibbon. Sauf qu'en fait, je me rends compte avec le recul qu'un livre qui a 200 ans écrit par un génie est probablement bien meilleur qu'un livre correctement écrit aujourd'hui qui va basculer dans un néant. Donc, j'avais lu il y a longtemps le livre de Paul Venn sur l'Empire romain. C'est très bien, Paul Venn, mais là, j'ai l'impression, parce qu'il y a une sorte de folie spécifique qui tient au fait que c'est un peu trop écrit pour un récit historique, et puis on sent qu'il a vachement triché, et qu'il a relié des faits dans les bibliothèques, et qu'en relisant les études sur les mœurs de Voltaire, il a comblé des manques. Et là, j'ai l'impression que parce qu'il a fait précisément de romancier sur cette chose géniale, ce qui dure 13 siècles, hein, il fait durer le déclin de l'Empire romain sur 13 siècles, il va jusqu'à la chute de Byzance, en fait. Donc voilà. Et là, je me dis, c'est super parce qu'on est sur un outil qui va vraiment faire le job du roman. Donc je suis très content de m'être décidé à le lire.
Le sermon sur la chute de Rome.
Le bouquin de Gibbon.
D'accord.
Dont j'oublie le nom.
Et sur cette réflexion de cette responsabilité aussi de l'écrivain qui est de toujours rappeler le lien des mots à leur référence et une manière de.
C'est quelque chose qu'on sait. C'est même pas à l'oreille, mais on sait quand une phrase est grammaticalement juste et on sait qu'elle est grammaticalement juste quand elle touche quelque chose du monde, ouais. En fait, quand elle volette pas. Et je pense si on improvise complètement quelque chose sur n'importe quel sujet. Si je me mets à parler de physique quantique en faisant des phrases, je sais à la qualité de mes phrases si ce que je dis est vrai ou pas. En partie. Mais il y a quand même quelque chose... le monde est bien fait, quoi.
On parlait de Balzac, Flaubert et tous les écrivains naturalistes qui nous font comprendre le 19e siècle, qui nous l'ont fait connaître. Est-ce que vous, quand vous écrivez, vous pensez à ceux qui vous liront dans 100 ans?
Ah ouais, moi, clairement. Ouais, je pense qu'il y a certains de mes livres qui décrivent une vision du monde qui est... en tout cas, qui était juste pour moi au moment où je l'écrivais. Et je pense qu'on pourra trouver quelques trucs dans mes livres. En tout cas, je pense qu'il y en aura d'autres certainement plus intéressants. Mais en tout cas, que mes livres pourront témoigner de l'époque dans laquelle j'étais immergé. Ouais.
Joyce Ormond ?
Non, moi, je ne pense pas du tout à la postérité. Hein. C'est pas... Pourtant, je suis mégalo comme tous les écrivains. Mais je ne me dis pas que ce sera un outil de connaissance pour plus tard. Enfin, je veux dire, c'est quand même une chose tellement minuscule, la littérature. C'est formidable pour ceux qui l'écrivent, c'est formidable pour les individus qui lisent des livres. Enfin, ça se joue comme ça à l'échelle individuelle, à des petits moments. Nous, quand on écrit, les lecteurs, quand ils découvrent nos livres. Mais je veux dire, la littérature n'engendrera jamais aucune révolution, ne changera jamais le cours des choses, n'a aucun poids face aux fake news et à la langue en circulation sur les réseaux. C'est pas pour ça que c'est déprimant ou ridicule, mais je pense qu'il faut être extrêmement modeste et que ce sont des micro-déplacements dans des vies très singulières à des moments donnés, ce qui n'empêche pas un certain nombre d'écrivains de passer à la postérité, et c'est formidable.
Ouais, je suis vraiment pas du tout d'accord. Je pense qu'au contraire, on écrit le monde, et que la littérature est très très importante. C'est pas la force d'un écrivain, c'est la force de la littérature.
Merci beaucoup, on doit s'arrêter là, c'est la conclusion de cette émission. Merci à vous Joyce Sormand, Vincent Ravalec, Aurélien Bélanger d'avoir été avec nous. Sainte-Croix-les-Vaches, Vincent Ravalec vient de paraître chez Fayard et c'est le premier tome d'une série à venir. Qui a dit « Un romancier n'est pas un philosophe, je veux juste essayer de montrer, de faire ressentir ce que c'est qu'être vivant. Voilà ma mission en tant qu'écrivain. » Il s'agit de Paul Auster, dont vous retrouverez un grand entretien dans le dernier France Culture Papier. Le dernier numéro est largement consacré aux relations entre l'homme et l'animal, sujet qui vous intéresse notamment vous, Joyce Sormand. Dimanche et après, une émission préparée par Charles Thibault, réalisée par Somanina, la plus bibliophile d'entre nous. Merci à l'équipe technique du Salon du Livre Paris, Emmanuel Morse-Duncan, Martin Guénard et Rémi Gouriou. Les podcasts, Facebook, Twitter, c'est sur franceculture.fr, etc. Très bonne soirée sur France Culture. Dans un instant, Soft Power.